Bien, nous voici réunis pour une nouvelle année de parcours biblique. Et cette année, ce sont donc les psaumes que nous allons explorer, découvrir pour une part. Alors, je vous fais passer le petit papier avec les dates des différentes rencontres, si jamais vous ne l'aviez pas récupéré au temple. Ça vous permet d'avoir tout sous un même regard. Aujourd'hui, nous allons tout particulièrement observer le psaume 91. Mais avant cela, je vais vous dire quelques mots introductifs sur le livre des psaumes, de façon à ce que vous puissiez commencer à vous familiariser avec l'un de ces 66 livres bibliques. Donc, le livre des psaumes est situé dans le Premier Testament, quoique parfois les éditions françaises du Nouveau Testament l'intègrent au début ou à la fin de leur recueil. C'est donc un livre qui est écrit en hébreu et qui fait partie de la section qu'on appelle Ketuvim. Ketuvim, ça veut dire écrit en hébreu. La Bible hébraïque est divisée en trois parties. La Torah, c'est-à-dire la loi, le Pentateuque, les prophètes, Neviim, et puis les écrits, Ketuvim, du verbe katav. Peut-être que vous l'entendez dans Mektoub. C'est écrit. Torah, Neviim, Ketuvim, dont les initiales forment Tanakh ou Tanar, c'est une façon que les Hébreux ont de désigner la Bible hébraïque. Des fois, si vous entendez un juif parler du Tanar, en fait, c'est qu'il parle de la Bible hébraïque, Torah, Neviim, Ketuvim. Alors, tout d'abord, quelques mots sur le sens du mot psaume. Alors, ça vient d'un mot latin utilisé essentiellement dans le domaine ecclésial, psalmus, qui signifie la prudence. Prudence, qui signifie la prudence. À moins que cela soit issu du grec psalmos, qui signifie faire vibrer une corde, d'où psalmodier, hein, du verbe psalain. Donc, vous avez deux étymologies possibles selon que vous remontez à une racine latine ou une racine grecque. Mais à vrai dire, peu nous importe dans la mesure où nous avons accès au texte hébreu. Au texte hébreu, nous avons le nom de ce livre. Si vous avez une Bible hébraïque, sur l'une des pages, vous verrez en titre « Tehilim ». Tehilim, c'est un mot au pluriel. Je vais vous faire passer un petit papier. Pourquoi vous m'avez fait passer ça déjà? Je ne l'ai pas fait passer ça. Ouais, je vois. Je me suis fait usurper ma méthode pédagogique. Bien. Donc, je vous fais passer le petit papier qu'il faut observer en premier, sur lequel figurent quelques mots que du coup je n'ai plus. Bon, je vais vous en prendre un. Très bien. Donc, c'est en train de circuler en fait le papier. Alors le premier en fait, il vient après. Mais enfin, je peux vous en donner un tout de suite si vous voulez, mais c'est pas celui qu'on est en train d'observer. Ceux qui suivent l'enregistrement vont être complètement perdus. Donc, Tehilim, c'est le pluriel de Tehila, c'est-à-dire chant de louange. Ça vient du mot hébreu halal. Hein, et halal, ça veut dire louer. Et c'est évidemment un mot que vous connaissez par alléluia, qui signifie louer ya. Donc louer le tétragramme, louer le nom de Dieu. Hein. On pourrait dire louer l'éternel, alléluia, qui est le début du tétragramme, qui est parfois translittéré par Yahvé, et qui peut-être devrait se prononcer Yahou, mais vous savez qu'on ne prononce pas le nom à l'exception du grand prêtre une fois par an dans le Saint des Saints au moment du Yom Kippour, lorsque le temple était encore édifié. Ce mot alléluia figure à la fin de certains psaumes, par exemple le psaume 104, par exemple le psaume 106. Et donc, c'est une bonne façon de désigner ce livre. Mais il y a aussi en hébreu un autre mot qui signifie psalmodier, c'est le verbe zimer. Et donc, ça serait mitzmor. Je vous le transmets vers comme ça. C'est une façon aussi de désigner les psaumes. De quand date le livre des psaumes ? On ne peut pas vraiment estimer une période où ce livre aurait été écrit, mais on peut estimer une période où il aurait été compilé, parce que ce sont des textes qui manifestement ont été écrits à différentes dates. Déjà, on peut se rendre compte que c'est un livre assez récent par la langue. C'est une langue qui se distingue des textes les plus anciens, qui sont dans un hébreu qu'on pourrait dire un hébreu prosaïque, au sens où c'est de la prose, alors que là, souvent, c'est de la poésie, ce sont des vers, et donc c'est une langue plus élaborée, donc une langue plus récente. Mais le mieux pour se donner une idée des dates de rédaction très variées, c'est de voir les thèmes qui sont évoqués. Et par exemple, lorsqu'un psaume évoque l'exil à Babylone, on comprend que le livre des psaumes n'a pas pu être rédigé à l'époque de David, par exemple. Certains psaumes sont attribués à David, et pourquoi ne pas imaginer que le roi David, dont David est attesté par ailleurs hein, dans quelques tablettes, on peut très bien imaginer qu'il ait composé quelques psaumes, mais en tous les cas, l'intégralité du psautier n'a pas été rédigée à l'époque de David, puisqu'il y a au moins un psaume qui est l'évocation de l'exil à Babylone. D'autres psaumes empruntent à la poésie égyptienne ou à la religion égyptienne. D'autres font appel au vocabulaire qu'on trouve à Ougarit. Rachamra Ougarit, ce serait entre la Libye et la Syrie actuelle. Ou encore à des motifs babyloniens. Donc, il est probable qu'il faille tenir pour date de composition de l'ensemble le retour d'exil. Mais après tout, des psaumes encore plus récents pourraient très bien faire partie du psautier. Quand je vous parle du verbe « alal », il faut bien comprendre que c'est un verbe technique qui désigne le culte au temple de Jérusalem. Et donc, cela peut nous renseigner aussi sur le contexte, qui est donc un contexte plutôt cultuel qu'une piété personnelle. Alors, vous savez, l'intérêt des psaumes, on dit que c'est que ça forge notre piété personnelle. Prier les psaumes, c'est une très bonne école de prière, et ça se fait dans l'intimité de sa chambre. Néanmoins, les psaumes ont d'abord une fonction au moins sociale. Je dis sociale parce que non seulement ils servent le culte au temple, avec ce mot technique que l'on retrouve dans des textes bibliques qui sont vraiment liés au service du temple. Je ne vous cite que Esdras, chapitre 3, versets 10 à 11, ou Néhémie, chapitre 5, verset 13, chapitre 12, verset 24, qui sont donc des textes de retour d'exil. Je dis social parce que, indépendamment du culte, il y a aussi une fonction éducative dans ces psaumes. Il y a des psaumes historiques, peut-être des psaumes pour apprendre à lire, apprendre l'alphabet. En effet, il y a des psaumes qui sont construits sur l'alphabet. Le plus connu est bien sûr le psaume 119, que nous verrons d'ailleurs au fil de notre périple. Le psaume 119 est composé d'autant de strophes que de lettres dans l'alphabet hébreu, et chaque vers de chaque strophe commence par une lettre de l'alphabet hébreu. Donc imaginez que vous ayez d'abord une strophe avec des vers qui commencent par le A, puis une strophe avec des vers qui commencent par le B, etc. Donc peut-être y a-t-il une fonction éducative qui consiste à faire apprendre l'alphabet. C'est le cas également pour le psaume 25, par exemple. Aujourd'hui, quand on chante « À toi, mon Dieu, mon cœur monte », on n'imagine pas qu'en fait c'est un psaume alphabétique. Chaque verset commence par la lettre suivante dans l'alphabet hébreu. Je vais vous faire passer une Bible hébraïque. Ça vous permettra comme cela de voir le psaume 25 peut-être, le psaume 119. De toute façon, on aura l'occasion de le voir et je vous en ferai une photocopie le moment venu. Mais le psaume 25, vous allez voir, donc il faut lire de droite à gauche. Donc ça commence sur la page de droite en bas et puis ça finit sur la page de gauche. Et entre parenthèses, il y a à chaque fois la lettre de l'alphabet qui correspond effectivement à la première lettre du verset. Je le fais passer par là, donc le psaume 25 par exemple, mais vous pouvez aussi feuilleter la Bible. Au passage, vous voyez que quand on prend le texte hébreu, alors comme il y a des caractères latins, non là vous la tenez à l'envers. Ouais, là, c'est dans, ouais, voilà, ça c'est dans le bon sens. Quand on regarde le texte hébreu, on voit bien qu'effectivement les versets ne vont pas jusqu'au bout de la ligne. Donc on peut imaginer qu'il y a l'idée de la rime, contrairement à d'autres, à la plupart des passages de l'Ancien Testament, où c'est en justifié parce qu'on écrit en prose. Alors les auteurs sont assez mal connus. Je pense qu'il faut éviter de se fier à l'attribution qui est faite au début de chaque psaume. C'est pas parce que c'est écrit David que c'est David qui écrit. Pour des questions de langue, je dirais, tout simplement. C'est qu'à l'époque de David, la langue hébraïque n'a pas ce style-là. Donc ça me semble être le meilleur indicateur pour expliquer que les attributions sont plutôt des attributions symboliques que des attributions littéraires. Il y a donc 150 psaumes, ceux qui correspondent au psautier français, à vrai dire, hein, qui a été mis en musique au moment de la Réforme. Et ce psautier peut être découpé en 5 parties. Et ces 5 parties, vous pouvez les retrouver assez facilement avec vos éditions françaises, parce que chaque partie est finie par l'expression « Amen, Amen ». Donc par exemple, si vous allez à la fin du psaume 41, eh bien, le psaume 41 finit par « Amen, Amen ». Ça vaut le coup de vérifier quand même ce que je dis. Hein. Moi, dans ma Louis II, en tout cas, c'est bien écrit « Amen, Amen ». Mais ne vous fiez pas trop à ce que je dis, vérifiez quand vous avez la possibilité de le faire. Donc c'est vrai pour le psaume 41, c'est vrai pour le psaume 72, c'est vrai pour le psaume 89, c'est vrai pour le psaume 106, c'est vrai pour le psaume 150. Donc 41, 72, 89, 106, 150. Voilà une subdivision qui n'apparaît pas dans le texte hébraïque, autrement que par ce petit critère « Amen, Amen ». C'est un découpage qui appartient à la tradition, et la tradition envisage que ces 5 parties correspondent aux 5 livres de la Torah, au Pentateuque. Vous voyez, l'idée du 5, c'est l'idée de la loi. Et peut-être faut-il envisager le livre des psaumes comme une autre manière d'appréhender la Torah. La Torah qui est bien plus que la loi. La Torah, c'est l'instruction divine. C'est la parole qui nous fait devenir humains. Il ne faut pas apprendre forcément la Torah au sens législatif du terme, mais plutôt comme des paroles qui nous éduquent, qui nous humanisent. Évidemment, on pourrait faire un autre découpage, c'est un découpage par auteur. Puisque, par exemple, les psaumes 3 à 41 sont attribués à David, que les psaumes 42 à 49 sont attribués à Corée, que les psaumes 51 à 71 sont à nouveau attribués à David, que les psaumes 73 à 83 sont attribués à Asaph. C'est pas la peine de noter, en fait, hein, vous les retrouvez dans vos éditions françaises. Et puis ça continue comme ça. On pourrait peut-être imaginer voilà, une sorte de découpage par ensemble d'attributions. On pourrait aussi trouver d'autres façons de relier les psaumes entre eux. Ce sont les thèmes qui sont abordés. On peut faire un classement par famille. Est-ce que c'est un psaume de louange ? Est-ce que c'est un psaume d'appel au secours ? Est-ce que c'est un psaume d'instruction ? Voilà, donc il y a aussi cette possibilité-là éventuellement pour trouver des clés de répartition. Alors, je vous épargne un catalogue exhaustif justement des thèmes. Je vous ai préparé un papier sur lequel vous pouvez en fait vous y retrouver tout simplement. Je vous ai écrit ça pour que vous trouviez des psaumes qui correspondent à ce que vous cherchez. Hein ? C'est-à-dire que à gauche, vous trouvez plutôt des éléments qui sont en lien avec, avec des moments un peu existentiels, disons. Et c'est tellement difficile de trouver des psaumes joyeux qu'il vaut mieux savoir où ils se trouvent, en fait. Parce que souvent, c'est quand même plutôt l'horreur. Si vous voulez un peu de détresse, d'affliction et d'oppression, piochez au hasard. Mais si vous voulez de la louange ou de la joie, confiance, relèvement, bon ben voilà, ça va vous aider quand même à aller plus rapidement. Et puis une autre classification avec les deux colonnes de droite qui vont un peu plus dans le détail encore. Ce sont des catalogues qui sont faits pour faciliter la lecture et faciliter la prière. Donc le jour où vous cherchez un psaume, par exemple, pour, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait... L'aptitude à se laisser enseigner. Bah, si vous avez un adolescent un peu récalcitrant, par exemple, vous lui donnez le psaume 25. Bien. Ouais, il y en a qu'un, mais c'est le bon. Vous pouvez même le chanter, il est facile. Et puis il est alphabétique. Vous voyez ? Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que souvent, en hébreu, la forme correspond au fond. C'est-à-dire qu'un psaume alphabétique, comme je vous le disais, ça a certainement un caractère éducatif. Eh bien, justement, c'est un psaume qui évoque le thème de l'éducation. Ça instruit, en tout cas. Et le psaume 119, dont je vous disais qu'il était alphabétique, c'est aussi un apprentissage de la Torah, on le reverra. Bon. Vous avez aussi des psaumes qu'on appelle messianiques. Alors, ceux-là sont souvent utilisés pour dire, voyez, Jésus-Christ est présent dans les psaumes. Et ça a souvent été fait dans la tradition de l'Église. Il faut bien se souvenir que le Messie existe en dehors de Jésus de Nazareth, et que le Messie, c'est d'abord le roi. Le roi est Christ. Christ-Messie, c'est jamais que le même mot qu'il soit, soit en grec, soit en hébreu. Et vous avez donc là, dans les premiers psaumes, qui sont des psaumes messianiques, des psaumes qui concernent soit le roi d'Israël, et non pas Jésus de Nazareth, soit la capacité que Dieu a à intervenir dans l'histoire. À, si on disait ça avec une périphrase ou une métaphore, à fouler la terre ou à joindre ses pas aux pas de l'homme. Voilà, donc... Quelques éléments qui vous permettront de mieux vous repérer. Ensuite, on peut tourner la page, justement, pour revenir sur ces mots, sur les titres de certains psaumes, parce que ça vous permettra, comme cela, de reconnaître les expressions hébraïques si un jour vous êtes dans une synagogue ou si vous suivez un cours en ligne d'un rabbin. Donc, je vous ai dit « Mizmor », ça peut être un psaume, mais Shir, c'est aussi un cantique. Shir Hashirim, c'est le cantique des cantiques. Donc c'est un autre livre biblique. Et donc, voilà, il est difficile de distinguer entre le cantique et le psaume. Aujourd'hui, nous, la distinction, c'est que le psaume, c'est quelque chose... Enfin, c'est un chant qui est issu du psautier, alors qu'un cantique, c'est un chant qui a été inventé soit à partir d'un autre texte biblique, soit à partir de l'inspiration du moment. Tehila, donc on entend Allal, c'est le chant de louange, au pluriel Tehilim. Donc en fait, ce sont des psaumes aussi. Hein. D'ailleurs, c'est intitulé Tehilim. Hein. Le mot qui est en haut, c'est Tehilim. Tefila, la prière. Vous connaissez peut-être les Tefilim. Tefilim, c'est ce que l'on met sur le corps. Vous savez, c'est ces bandes en cuir avec une petite cassette qui contient un verset biblique. Qu'on utilise au moment de la prière. Ça ressemble un peu à une petite boîte qui, en principe, dans la façon de le nouer, rappelle un nom que nous allons voir aujourd'hui, Shaddai, avec les trois initiales Shin, Dalet, Yod. Donc la façon de nouer, en principe, est destinée à reproduire la graphie de ces lettres. Toda, c'est l'action de grâce. Si vous allez en Israël, quand vous voulez dire merci, vous dites Toda Rabba, merci beaucoup, ou Toda, quand on vous sert un verre ou quelque chose. Maskil, peut-être un chant artistique. Et puis Menatsehar, c'est celui que l'on voit souvent dans les psaumes, le chef de chœur, le maître de chapelle peut-être, Fabien Aubé. Alors, voilà pour les titres. Vous avez aussi un mot qui revient assez souvent dans les psaumes, c'est cela. Cela, c'est la pause. Des fois, dans le psaume, c'est écrit pause, silence, autrement dit. Et donc, c'est un mot, cela, qui existe évidemment dans l'hébreu. Toujours sur cette page, je vous ai mis sur deux colonnes la correspondance entre l'hébreu, enfin le texte hébreu, le texte massorétique, et la Septante ou la Vulgate, et donc entre les Bibles protestantes et les Bibles catholiques. Si vous prenez une traduction œcuménique de la Bible, vous allez voir qu'il y a une double numérotation, parfois. Il y a un numéro de psaume, et puis entre parenthèses, un autre numéro de psaume avec un décalage de 1. Et bien là, vous avez la correspondance, et en fait, ça s'explique très bien par le fait qu'il y a eu des modifications sur deux psaumes. Vous voyez que les psaumes 9 et 10 du texte hébreu n'en forment qu'un dans le texte grec, donc dans la traduction des Septantes, c'est le psaume 10. Et puis après, on va récupérer ce décalage vers la fin avec les psaumes 146 et 147 de la version grecque qui ne forment qu'un seul psaume en hébreu, le 147. Donc, quand vous êtes entre le psaume 10 et le psaume 147, vous avez un décalage de 1 entre les Bibles protestantes et les Bibles catholiques. Et c'est dû à ça. C'est dû à la traduction grecque et la traduction de la Vulgate, la traduction latine, c'est une traduction de la Septante. Donc on n'a fait que répéter ce décalage. Voilà, il ne faut pas y trouver d'autres raisons particulières. Ce n'est pas les protestants qui ont décidé de se distinguer des catholiques en faisant un petit décalage de 1. Voilà. Bon, évidemment, les psaumes ont été particulièrement utilisés dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, dans la vie de Jésus. Une fois de plus, certains vont y voir une préfiguration du ministère de Jésus. Moi, je pense que c'est ce qu'on appelle des intertextualités, c'est-à-dire ces utilisations massives de psaumes dans le Nouveau Testament, au même titre d'ailleurs que les citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, relève plutôt d'une autre logique. C'est-à-dire que le texte biblique est là pour nous enseigner tout simplement ce qu'est la vie. Voilà, la vie en Dieu, la vie en plénitude. Et Jésus est Christ en ce sens qu'il vit pleinement cette humanité espérée par Dieu. Et donc, il est normal que le ministère de Jésus retraverse l'ensemble des expériences humaines. Et donc ces intertextualités sont destinées à faire comprendre au lecteur que Jésus a été homme comme nous peinons tous à l'être. C'est-à-dire que Jésus incarne vraiment ce qu'est l'humanité, et pour bien attester cela, on le montre en soulignant le fait qu'il a vraiment vécu l'humanité qui est exposée de façon assez exhaustive dans l'Ancien Testament et notamment dans les psaumes qui sont vraiment des psaumes où la patte humaine est explorée jusque dans ces zones les plus affreuses. Il y a dans le psautier des psaumes qui ont pu être réexploités ensuite dans la tradition chrétienne, et je prends un recueil en particulier, c'est ce qu'on appelle les psaumes de pénitence. Je crois que c'est Claudel qui écrit sur les psaumes de pénitence. Et les psaumes de pénitence, ce sont 7 psaumes, et je vous les donne. Il y a le 6, il y a le 32, Il y a le 38, il y a le 51, il y a le 102, il y a le 130 et en numéro complémentaire le 143. Je vous les donne parce que 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143 constituent un ensemble qu'il faut avoir en tête lorsque l'on veut faire, je dirais, un travail sur soi. Vous savez, le travail de retraite, le travail de mystique éventuellement, commence par un travail de pénitence. En fait, il s'agit de travailler sur son orgueil, hein, de faire du mal à Narcisse. Et donc, ce sont ces psaumes qui sont particulièrement efficaces pour accompagner une démarche personnelle d'introspection, de retour sur soi, et peut-être un peu de kénose, hein, se vider un peu de ce qui nous encombre. Bon, maintenant je pense qu'il faut rentrer dans le psaume 91. Donc vous m'avez braqué la feuille qu'on va voir en dernier. Et je vous passe une grande feuille sur laquelle figurent plusieurs éditions de ce psaume 91. Donc, on ne va pas passer notre temps à aller d'une traduction à une autre, mais comme ça, ça vous permettra d'avoir sous les yeux, et puis surtout chez vous, cette variété des traductions. C'est-à-dire que l'intérêt de cela, c'est de mesurer à quel point il est difficile de traduire les psaumes, parce que bien souvent, dans les psaumes, il y a des mots que l'on ne retrouve pas ailleurs, ce qu'on appelle des apax. Et du coup, cela signifie que, pour une langue qui, à un moment donné, a quand même été très peu utilisée, il est parfois difficile de retrouver le sens du vocabulaire. Alors, quand on veut retrouver le sens du vocabulaire d'un mot qui n'apparaît pas par ailleurs, et donc on ne peut pas déduire sa définition à partir du contexte, il y a deux solutions. La première solution consiste à isoler une racine qui serait proche de quelque chose que l'on connaît déjà. Donc, il y a des mots qui sont construits sur des racines verbales. Et si on connaît le verbe, alors on va comprendre un peu mieux le sens du mot. L'autre solution, c'est de faire appel aux langues avoisinantes. Ça peut être aussi bien le sumérien que l'acadien, éventuellement l'égyptien, et de façon préférable l'ougaritique. L'ougaritique qui est une langue proto-hébraïque. Alors, c'est un mot un peu pompeux pour dire que c'est une langue qui date... Et il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. J'ai décidé de ne pas créer la pénurie aujourd'hui. Une langue proto-hébraïque, c'est simplement une langue qui arrive avant l'hébreu, qui préfigure l'hébreu, qui prépare l'hébreu. Donc, l'ougaritique, c'est une langue cunéiforme, donc c'est avec des petits bâtons, mais qui est alphabétique. Et donc, il y a un alphabet ougaritique qui est proche de l'alphabet hébreu. Alors que les autres langues cunéiformes sont souvent syllabiques. Donc, ce n'est pas avec des lettres, mais avec des syllabes. Donc, quand on veut trouver le sens d'un mot peu connu, voilà comment on mène l'enquête, en fait. Alors, je vais vous proposer que nous commencions par lire le psaume 91 entièrement, et puis ensuite on va essayer de donner du sens à ce que nous aurons lu. Alors peut-être le lire dans une des versions qui sont sur cette feuille ou votre propre Bible, et puis laisser l'autre un peu de côté.
Prendre celle-là.
Non, on ne prend pas celle-là. J'ai dit que ça c'était pour après. Je sais que vous n'en faites qu'à votre tête. Celle que vous voulez. Ou votre Bible personnelle. Eh bien, très bien, une seconde. Crampon, alors c'est un abbé qui s'appelait Crampon. Donc c'est une traduction, disons plutôt catholique. Crampon, ça doit être début 20e. Là, il n'y a que des traductions contemporaines, ce qui simplifie la compréhension. Il y a bien quelqu'un qui va accepter de faire un peu la lecture? Oui, bien sûr, merci. Très bien.
Celui qui habite là où se cache le traîneau passe la nuit à l'ombre du Dieu souverain. Je dis du Seigneur, il est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, sur lui je compte. C'est lui qui te délivre du filet du chasseur et de la peste pernicieuse. De ses ailes, il te fait un abri, et sous ses plumes, tu te réfugies. Sa fidélité est un bouclier et une arme. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans l'ombre, ni le fléau qui ravage en plein midi. S'il en tombe 1000 de ton côté et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont pénis les infidèles. Oui, Seigneur, c'est toi mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Il ne t'arrivera pas de malheur. Aucun coup ne menacera ta tente, car il chargera ses anges de te garder en tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs bras pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Tu marcheras sur le lion, la vipère, tu piétineras le tigre, le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le libère, je le protégerai car il connaît mon nom. S'il m'appelle, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai. Je le glorifierai, je le comblerai de longs jours et je lui manifesterai mon salut.
Merci beaucoup. Alors, première chose, si on devait, disons, classer ce psaume, si on voulait le mettre dans une catégorie, vous choisiriez quelle catégorie ?
La confiance.
Alors, la confiance. D'autres suggestions ? Avertissement. Vous n'êtes pas obligé de choisir des catégories qui ont déjà été indiquées sur le papier. Hein. Vous pouvez créer vos propres catégories.
Hein. Assurance
tout risque. Assurance tout risque. C'est le barde qui chante. Ouais.
La protection.
Puissance du Seigneur.
La protection. La protection,
oui. On l'avait bien compris, c'est comme ça. Est-ce que, selon vous, c'est un psaume... je dirais pour un usage personnel ou c'est plutôt un psaume à utiliser au culte ? Plutôt personnel ? Bon, en fait, je vais vous montrer que c'est un usage non personnel. Ah bah évidemment, il y a un piège pour commencer. Pensez bien, je ne vais pas vous laisser comme ça. Bien. Alors... effectivement, il est question de ce sentiment de sécurité, de la confiance, de l'assurance, il est voilà, des interventions positives, disons. Ce psaume est déjà en... Comment dire est déjà à reprendre dans sa rhétorique. On va prendre cette fois la feuille, comme ça vous pourrez écrire si vous voulez dessus, là où il y a juste une version, qui est une version à peine aménagée. La grande différence, c'est le verset 2. Le verset 2 est différent pour la bonne et simple raison que, si vous prenez en bas à droite, c'est ça que vous voulez ?
Oui.
Alors, si vous prenez le texte hébreu, vous allez à la deuxième ligne, à côté du numéro 2, il y a un mot, c'est le premier mot. Bonjour. Hop. Voici une grande, et il y en a peut-être une autre quelque part. Ah, et l'autre, elle est là-bas. Donc, si vous allez, si vous prenez donc le texte en hébreu, qui est en bas à droite de la feuille, vous allez à la deuxième ligne. Et à gauche du numéro 2, il y a un mot, C'est le mot « Omar » qui, traduit tel quel, serait rendu comme c'est le cas dans la plupart des traductions françaises que vous avez, « J'ai dit » ou « Je dis ». Voilà, mais plutôt « J'ai dit » ou « Je suis 10 ans ». Bon. Et vous voyez que à côté du verbe, il y a un petit a. Donc vous avez votre mot comme ça. Puis ici vous avez un petit a. Et le petit a, en fait, c'est une note qu'il y a dans l'édition critique. Le petit a est là. En fait, c'est juste une note qui renvoie à un bas de page dans la Bible hébraïque. Et cette note, en fait, renvoie à la manière dont la Septante, le texte grec, a traduit ce mot. Et au lieu de comprendre « j'ai dit », le texte grec comprend donc « dit » ou « tu diras ».« Tu diras ». Et alors, cette petite modification comme ça, qui ne paye pas de mine, est utile pour comprendre, je crois, l'ensemble de ce psaume, qui du coup n'est plus forcément à envisager comme une prière personnelle, mais comme une liturgie. Et en fait, vous avez sous les yeux une liturgie de pèlerinage. Je sais que ça vous a pas sauté aux yeux, parce que vous vous êtes laissé embarquer par les expressions poétiques et par l'imaginaire que suscite ce psaume. Vous êtes dit « les anges gardiens, Dieu qui est comme une poule qui me couve », etc., etc. Et vous avez peut-être perdu de vue le jeu qu'il y a entre plusieurs personnages. Et alors, je vous propose un découpage possible de ce psaume pour retrouver la liturgie. La première étape, c'est l'arrivée du pèlerin au temple. L'arrivée du pèlerin au temple avec les versets 1 à 4 qui sont la bénédiction d'un prêtre. Après, on va revenir un peu dans le détail pour justifier cela. Ensuite, les versets 5 à 8, une promesse de la part de Dieu lui-même. Donc, première étape, arrivée du pèlerin au temple. Deuxième étape, c'est le verset 9. Et le verset 9, c'est la confession de foi du pèlerin. Et puis, troisième étape, le départ du pèlerin, avec, au verset 10 à 13, une bénédiction d'un prêtre. Et puis, les versets 14 à 16, la promesse de Dieu. Donc, si je vous propose ce découpage, c'est parce qu'il correspond... Alors, Odile, vous voulez 10 à 13, la bénédiction d'un prêtre, et 14 à 16, promesse de Dieu. C'est donc l'ensemble départ du pèlerin. Si on fait ce découpage, c'est parce qu'il y a un jeu sur, je dirais, les pronoms personnels, sur les sujets. Et on voit qu'en fait, il y a plusieurs acteurs, plusieurs sujets. Et si on essaie de voir ce que produit l'enchaînement, on peut avoir, peut-être, une liturgie de pèlerinage. C'est une hypothèse qui me semble assez vraisemblable. Alors, quand il y a, par exemple, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, vous voyez bien que ce n'est pas nous, en tant que croyants, qui parlons. C'est une phrase qui s'adresse aux croyants. C'est un peu... Au niveau du style, c'est vraiment ce que l'on trouve à l'entrée des églises. Éteignez votre portable, ici vous rencontrez Dieu, tenue correcte exigée, et... N'oubliez pas le service des plus petits. Avec une invitation quand même plus agréable. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une parole de grâce. C'est une salutation. C'est vraiment une bénédiction d'un prêtre. Alors évidemment, je vous ai laissé l'expression Tout-Puissant parce qu'elle pose problème. Mais on l'a déjà vu plusieurs fois, donc on ne va peut-être pas passer trop de temps sur Tout-Puissant. Mais c'est justement le mot hébreu dont je vous parlais au sujet des Tefillin et donc de la prière dans le judaïsme. Donc le mot, vous l'avez dans votre texte hébreu, c'est le 1, 2, 3, 4, 5e mot. Il faut partir de la droite, au verset 1. C'est Shaddai. Donc quand vous trouvez tout puissant dans vos traductions françaises, pour un texte de l'Ancien Testament, c'est en général ce mot qui est derrière, Shaddai. El Shaddai, le Dieu Shaddai. Il est souvent traduit par tout puissant. Et est-ce que vous vous souvenez ce que je vous avais dit au sujet de ce mot, ce qu'il en fait signifie ? Là, je me fais un peu plaisir. J'ai eu l'occasion de vous le dire une année sur deux à peu près. Mais je vais tout vous dire, ne vous inquiétez pas. Alors, sur le plan purement historique, Corinne Lanoir, ce week-end, disait que le dieu Shaddai était probablement un dieu des montagnes. Bon, ça c'est l'approche historique. D'un point de vue théologique et d'un point de vue exégétique, si on cherche le sens de ce mot, eh bien, on va faire ce que je vous disais tout à l'heure. Shaddai, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors on va essayer de retrouver des racines que nous connaissons. Et on va essayer de trouver, à travers la graphie, quelque chose de familier pour l'hébraïsant. Alors quand on voit un mot comme ça, on se dit que là on a la racine. Ça c'est du dur en hébreu, ce sont des lettres dures. Et ça, c'est souvent une terminaison. Une terminaison qui désigne souvent l'adjectif possessif à la première personne du singulier. Par exemple, ma trousse, ça serait trousse-aille. Enfin, il y aurait le diode à la fin. Oui. Ou alors, ça peut désigner un pluriel construit. Par exemple, les bottes d'Odile, c'est les bouteilles Odile. Hein, c'est-à-dire qu'on met un petit iode à la fin. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment de s'intéresser à la racine, Shad. Et Shad, c'est ce qui signifie le saint, S-E-I-N. C'est pas les saints dont parlera Paul plus tard, c'est bien la poitrine. Et donc Shaddai, ce pourrait être le dieu médecin, enfin mes deux saints. C'est-à-dire. Ah, il faut ce qu'il faut. Hein. C'est-à-dire, en fait, le dieu maternel, c'est le dieu qui allait. C'est le dieu, non pas matrice, mais le dieu mère qui va nourrir. Le dieu Shaddai est un dieu qui apparaît lorsqu'il y a des révélations. C'est-à-dire que c'est le dieu qui se révèle, c'est le dieu qui se manifeste et qui ne se manifeste pas dans des expériences cosmiques terrifiantes. Ce n'est pas un dieu qui se révèle à grand renfort de surnaturel. Voyez la suite du psaume. On voit que c'est un dieu mère-poule, en quelque sorte, qui va couvrir de ses plumes, hein, qui va quasiment couver ses enfants. Et donc, si on se souvient que Shad, c'est la poitrine, et donc... voilà, ça peut désigner donc un dieu un dieu nourricier. mais aussi ce Dieu qui reçoit sur son sein. Alors, vous savez, des fois, on parle du sein de l'Éternel ou du sein d'Abraham. Alors ça, c'était un peu tiré, en fait, la métaphore. Mais c'est l'idée aussi de reposer, de donner de la confiance, de donner le sentiment de sécurité. C'est-à-dire qu'un enfant qui est contre le sein de sa mère est un enfant qui va s'apaiser, un enfant qui va cesser d'avoir peur, un enfant qui va cesser d'être terrorisé par son environnement ou par ce qui lui a fait peur précédemment. On ne réconforte pas un enfant en le secouant, mais en le calant contre soi. Bien. Et donc, tout-puissant n'est pas du tout supporté par ce mot-là. Et aujourd'hui, la traduction œcuménique de la Bible, des fois, il y en a un parmi vous qui en a une, la traduction œcuménique révisée. Non, là, vous ne l'avez pas. Ben, vous verrez. On a cessé de traduire par tout-puissant, parce qu'on s'est rendu compte que sur le plan linguistique, en fait, ce n'était pas tenable. Alors, des fois, on va traduire par puissant, ce qui est déjà une amélioration, mais en tous les cas, tout-puissant n'est pas du tout supporté par cette expression. Oui, il fait une translittération, ce qui est un peu une solution de facilité, mais qui est honnête. Alors, Élion, c'est très haut, en fait. C'est le troisième mot, en partant de la droite, sur votre verset. Vous avez Élion. Et en fait, la racine, ici, c'est Al, c'est sur, au-dessus d'eux. Donc, Élion, c'est très en haut, donc le très haut. Donc, la traduction très haut est tout à fait acceptable. Et elle désigne l'inaccessible, elle désigne le Dieu qu'on ne maîtrise pas, le Dieu qui n'est pas sous la main, le Dieu qui n'est pas à notre merci. Elle désigne la transcendance, en fait. Donc, c'est à la fois le Dieu nourricier et le Dieu très haut, le Dieu transcendant. Donc, c'est le Dieu paradoxal, c'est le Dieu dialectique. C'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et celui qui s'occupe de la veuve, de l'orphelin et de l'immigré. Donc, c'est le Dieu de l'univers. C'est le Dieu qui ne connaît pas de limite. C'est le Dieu de l'infini. Et c'est le Dieu que l'on ne contrôle pas. Et c'est ce Dieu-là qu'on annonce aux pèlerins qui arrivent à Jérusalem. C'est peut-être comme ça que je vous accueillerai dimanche prochain. Mais je ne dirai pas tout-puissant. Et donc, le premier mot, celui qui demeure, la traduction est peut-être aussi un petit peu limite. C'est plutôt celui qui s'installe, je dirais. C'est le verbe yachav. Et peut-être qu'Abigail a quelques informations à nous apporter sur yachav. Non. En tout cas, c'est bien Yachav et c'est pas Chouv. Yachav, c'est plutôt le fait de s'installer. Donc, vous voyez, il y a l'idée d'arriver et de se poser, et pas l'idée de demeurer. L'installation, c'est par exemple ce mot que les exégètes allemands vont utiliser pour parler de l'entrée en terre promise. C'est l'installation du peuple hébreu. Donc, soyez le bienvenu, installez-vous. Et vous voyez, là, c'est le prêtre qui dit aux pèlerins qui arrivent, « Dis à l'Éternel ». Vous voyez, on est bien dans la formule liturgique. C'est le pasteur qui dit, « Eh bien, maintenant, vous prenez votre recueil de chants et vous chantez le psaume 25, pour continuer avec celui-là. » Et il donne cette consigne, « Eh bien, tu vas dire, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ». Donc, c'est un petit peu le sésame, en fait. C'est l'explication que l'on donne aux pèlerins qui arrivent. Voici comment vous allez procéder. Voici quelle est la liturgie. Alors, je reviens juste un petit moment sur le verset 1, avec l'histoire de l'ombre. Parce que l'ombre... Donc c'est Tsel. C'est quelque chose qui pourrait être mal compris de nos jours. On pourrait comprendre que quand on est à l'ombre de quelqu'un, vous voyez, on est un peu comme étouffé, quoi. Il nous fait de l'ombre. Eh bien, dans la Bible, l'ombre, c'est au contraire la protection et c'est surtout la présence bénéfique. Et Marie dira qu'elle a été couverte par l'ombre du Seigneur. Et donc, être dans l'ombre d'eux, c'est être au bénéfice de celui qui est à l'origine de l'ombre. Et dans l'ombre, il y a même l'idée de, l'image, tselem. Donc être dans l'ombre, c'est quasiment être associé, être reconfiguré par rapport à la figure de celui qui s'approche de nous. Eh bien, c'est exactement ça, sauf que la vallée de l'ombre de la mort, la mort, elle, est négative. Du coup, au lieu d'être au bénéfice d'eux, on est sous la menace d'eux. Non, parce que l'ombre, c'est pas l'ombre qui est menaçante en elle-même, c'est ce qui est à l'origine de l'ombre. En fait, c'est assez juste, parce que une ombre, c'est neutre. Une ombre, c'est neutre, ça ne fait que inaugurer le contact que l'on va avoir avec ce qui est à l'origine de l'ombre. Mais, vous voyez, pour neutraliser le risque d'une compréhension uniquement négative, je réinsiste sur le fait que l'ombre est une sorte de préfiguration de ce qui arrive. Et donc, c'est vraiment l'idée d'une introduction auprès de Dieu, qui va être d'autant plus manifeste ensuite au verset 3, avec le fait d'être préservé des pièges des ennemis, que sont le filet de l'oiseleur et puis la peste et ses ravages. Et avec ce verset 4, qui est donc la fin de la bénédiction du premier prêtre, « Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Vous voyez, on ne s'embarrasse pas vraiment des images, là. On présente vraiment Dieu comme un drôle d'oiseau, avec son plumage, avec ses ailes, et il ne fait aucun doute pour le prêtre qui dit cela, et je l'espère pour le pèlerin qui arrive, qu'évidemment Dieu n'a ni plume ni ailes. Et donc ce qui est vrai au sujet des plumes et des ailes, à savoir que c'est une image, eh bien, est vrai pour le reste. Donc quand on parle de la main de Dieu, quand on parle du nez de Dieu, ou d'autres attributs de Dieu, il faut faire le même traitement. Donc nous avons notre réconfort avec un Dieu qui nous couvre, et puis sa fidélité qui est un bouclier et une cuirasse. Donc là, on voit qu'il y a l'idée d'une protection vis-à-vis des agressions de l'extérieur. Donc, versets 3 et 4, c'est deux mouvements différents. Le mouvement 3 du verset 3, c'est la délivrance. Il y a quelque chose qui est arraché, on est délivré, on est débarrassé de quelque chose. Alors que le verset 4 va consister à stabiliser le nouvel état. C'est comme si vous aviez décidé de nettoyer la façade du temple de l'oratoire, de tous les graffitis qu'il y a dessus. Après, vous remettez un coup de vernis pour éviter qu'on vienne à nouveau le taguer. Hein, vous mettez un vernis qui, du coup, va faire couler tous les tags. Il y a des vernis comme ça. Donc, il y a une sorte de nettoyage, une sorte de délivrance. Et ensuite, on met en place ce qui va maintenir cet état de délivrance. Et donc, la fidélité, elle joue comme un bouclier, une cuirasse qui vont empêcher les nouvelles agressions. Alors, dans la mesure où je vous dis que c'est une liturgie de pèlerinage, que c'est une dimension culturelle, est-ce que de nos jours, on trouverait des équivalents à ce genre de phrase ? Soit au culte, soit en dehors du culte. Hein, ça peut être transposable dans une famille, ça peut être transposable peut-être au travail, dans les relations amicales. De toute façon, si ce n'est pas transposable, c'est que ça n'a rien à nous dire et donc ça n'a rien à faire là. Je comprends votre embarras. Pardon ?
Pour les immigrants, on pourrait dire « je t'arrache des mains des passeurs et je t'éteins chez moi ».
Par exemple ?
« Je t'affeuille et je pose une crise ».
Par exemple ? Mmh. Oui. Et si on reprenait par exemple l'image de l'enfant apeuré, eh bien, c'est l'enfant que l'on arrache au danger. Il était sur un mur et il risquait de tomber. Et on va faire en sorte que la situation ne se reproduise pas. Donc on a pris conscience d'un danger auquel on n'avait peut-être pas songé. Et du coup, on va mettre en place ce qui est nécessaire pour qu'il n'y ait pas à nouveau de mise en danger. Donc c'est l'idée que l'épreuve est instructive et qu'elle nous permet de modifier notre comportement dans l'avenir. En vous disant cela, c'est pour éviter de penser que la religion, la piété, ce serait une sorte d'intervention surnaturelle qui s'impose à nous, indépendamment de notre situation, indépendamment de notre volonté. C'est que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, c'est pas une sorte de carapace qui vient s'interposer entre nous et le monde. C'est pas une sorte de protection qui va du coup nous préserver de façon mécanique. La fidélité de Dieu, ce n'est pas un état, c'est plutôt le fait qu'il y a toujours des paroles disponibles, il y a toujours un capital de paroles dans lequel on peut puiser pour affronter une situation, pour comprendre ce qui se passe, pour faire une sorte de topographie du terrain qui est devant nous. Je veux dire par là que les textes bibliques sont un peu comme une cartographie des dangers qui nous menacent. Et donc, s'instruire à l'école de la Bible, c'est regarder la carte qui dresse un peu un inventaire de ce que nous risquons. Et puis aussi des promesses. On continue avec le verset 5. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'ombre, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. » Donc là, on retrouve notre ombre, joie. Même si ce n'est pas tout à fait la même. Alors, indépendamment des éléments vraiment exégétiques, je dirais, comment est-ce que vous prenez ce genre de verset ? Au fond, plus rien à craindre. Est-ce que, comme ça, là, tel quel, ça marche ? Oui ?
Ce n'est pas craindre la nuit ou le jour, c'est craindre ce qui peut arriver
Oui.
Donc c'est. Oui, ça serait. Enfin, ne craindra, c'est ne plus craindre ses propres craintes. C'est pas. Enfin, c'est. Les craintes ne viennent pas de quelque part. Elles sont créées par. Par l'homme.
D'accord.
C'est une façon de.
Mais par exemple, la flèche qui vole le jour, on pourrait dire que c'est un peu plus qu'une angoisse, ça ressemble quand même à une chose matérielle qui risque de nous blesser. C'est comme une sorte d'agression externe, je dirais. Oui ?
Moi, je ressens ça comme une sorte d'élection. Toi, tu es un cas un peu particulier, tu as pu agréer ceci, tu as pu atteindre le commun, etc.
Oui.
Et la petite phrase, tu verras la rétribution des méchants, c'est-à-dire qu'il y a presque la condition pour que tu sois élu.
Mm-hmm. Donc, mis à part. Et
la condition, pourquoi t'es mis à part ? Cette élection, elle n'est pas complètement gratuite, là.
Bah, il n'a encore rien fait pour la mériter.
Tu ne fais pas partie des méchants.
Oui. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'on n'ait plus à craindre la flèche qui vole de jour ? Alors, effectivement, il y a le thème de la confiance, mais...
C'est une affaire de confiance qui permet de voir plus clair en sachant que, bon, ben, on a une protection et qu'on peut apprécier la situation, non pas avec des craintes démesurées, mais pour faire face à la réalité telle qu'elle se présente et non pas telle qu'on pourrait l'imaginer ou la craindre.
Mm-hmm. Donc, ce serait la confiance qui neutralise la peur qui modifie notre rapport au réel. C'est-à-dire que si on prend l'exemple...
De dominer la peur, de faire face à une situation peut-être difficile.
Alors, ça peut être la promotion du sang-froid. Il y a un épisode dans les évangiles qui est un peu semblable. C'est Jésus qui marche sur les eaux et puis Pierre qui aimerait le rejoindre. Qu'il le fait. Et à un moment donné, il y a les éléments, enfin, c'est-à-dire il y a du vent, il y a des vagues, etc. Il commence à avoir peur et il se met à couler à ce moment-là. C'est-à-dire que la peur prend le dessus. Et en fait, il ne voit plus que les menaces. Perdant de vue Jésus, qui est le point vers lequel il espérait aller. Donc, au lieu d'avoir en ligne de mire, disons, le positif, il n'a dans son champ d'horizon plus que les menaces. Et du coup, il y a une sorte de cercle vicieux qui l'aspire vers le fond. Donc là, il y a effectivement une compréhension possible qui a été mise en scène dans des films assez récents comme Matrix, par exemple. Ce sont des films où on voit des scènes assez curieuses qui prêtent à sourire avec des personnes capables de voir les balles arriver au ralenti et du coup capables de les éviter, voire de les arrêter, etc. Et c'est une métaphore. C'est une métaphore qui dit que nous pouvons changer notre perception du réel et nous pouvons mieux anticiper les choses qui arrivent et du coup être en capacité de mieux réagir par rapport aux agressions et même aux choses positives. Il ne faut pas imaginer que d'un seul coup, des êtres humains soient animés d'une vitesse supérieure à 300 mètres secondes. Mais c'est une métaphore pour dire que nous pouvons avoir une meilleure sensibilité par rapport aux événements. Une autre façon d'interpréter le texte, c'est celle que vous disiez, madame, quand vous en disant que c'est pas valable en tout temps et en tout lieu, c'est de dire que cette phrase est juste pendant le temps du pèlerinage. C'est-à-dire que le pèlerin arrive au temple, dans un sanctuaire, et qu'il va, à ce moment-là, dans ce lieu-là, être préservé de toute agression. Une sorte de mise entre parenthèses. Vous voyez, une sorte de moment salutaire, une sorte d'accès à un jardin d'Éden, à un moment paradisiaque, où l'ordre cosmique est à nouveau rétabli, où tout ce qui est chaos est laissé dehors, et du coup, où on n'a plus de menaces à affronter ou à supporter. Vous savez, un peu le rêve que nous avons tous lorsque nous nous rendons dans une communauté chrétienne, en se disant que la vie paroissiale devrait être à l'image de l'Évangile, et qu'il devrait y avoir zéro problème. Vous savez, plus de jalousie, plus de rivalité, plus de petits trucs machin, tout ceci, cela. Bon. Et donc, les deux interprétations peuvent coexister. À la fois quelque chose qui est circonscrit dans le temps et dans l'espace et qui dure le temps du pèlerinage, ou alors quelque chose qui oriente une nouvelle compréhension de la réalité du réel. La réalité étant la construction que nous nous faisons du réel, notre représentation du réel. Alors ensuite, on a ce verset 6, « Ni la peste qui marche dans l'ombre, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. » Là, il faut avoir en tête qu'on parle de phénomènes contagieux. C'est-à-dire qu'on est capable de ne plus être pris par les contagions qui se répandent. Alors on peut penser contagion en termes effectivement de maladie, mais on peut aussi penser aux contagions en termes de rumeurs. Et on ne se laisse plus prendre par les rumeurs, à la fois en n'étant pas atteint par une rumeur et en n'étant pas non plus colporteur d'une rumeur. On n'est plus non plus dans le registre de la violence mimétique. La violence mimétique, c'est nous voyons quelqu'un faire une dégradation, eh bien nous nous sentons aussi autorisés à faire une dégradation. On voit quelqu'un qui jette ses mégots par terre et du coup ben, on laisse aussi traîner ses affaires par terre. Enfin, vous voyez, il y a une sorte d'entraînement vers le bas. Ou alors la violence mimétique, c'est-à-dire que dans un stade un peu chauffé à blanc, quelqu'un s'autorise à frapper un supporter adverse et du coup ben, les autres vont se sentir autorisés à le faire aussi. Enfin, voilà, c'est l'escalade, comme on dit. Hein. Oui, ouais, c'est la violence mimétique. Et c'est un phénomène contagieux. Et ici, la peste, l'épidémie qui frappe, peut être comprise comme une métaphore au sens de la peste de Camus. Hein. Ce bacille toujours prêt à être réactivé, là, voilà. La haine de l'autre. La haine du juif, la haine de l'étranger, la haine du parpaillot, la haine du franc-maçon, la haine de l'intellectuel, la haine de la femme. Alors, le verset 7 est un peu plus connu. C'est une formule qui revient. C'est une formule qui revient, par exemple, avec Saül, hein, quand on dit finalement les exploits dont est capable David, par exemple. Si vous avez une Bible, je vous invite à prendre le livre du Deutéronome, donc le cinquième livre de la Bible. Si on n'a que le Nouveau Testament et le livre des Psaumes, il ne faut pas se sentir puni. Hein. Je vais vous lire quelques versets du livre du Deutéronome au chapitre 32, qui est le cantique de Moïse, le psaume de Moïse. Et il y a des éléments qui sont un peu récurrents. Donc Deutéronome 32, je vous lis par exemple les versets 8 et 11. Verset 8, « Quand le Très-Haut, Elyon, celui du verset 1, donna un héritage aux nations, quand il sépara les uns des autres les fils d'Adam, il fixa des limites au peuple d'après le nombre des fils d'Israël. » Et au verset 11, « Pareil à l'aigle qui éveille sa nichée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. » Donc vous voyez, là il y a une intertextualité. C'est-à-dire qu'entre Deutéronome 32 et psaume 91, il y a des points de connexion. Je continue. Verset 30. Comme un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite, si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés. Donc, on a ce rapport 1000, 10 000, qui est présent aussi dans Deutéronome 32. Et c'est une figure assez classique par rapport à la littérature biblique. Donc, vous voyez, entre ce psaume 91 et puis par exemple le cantique de Moïse en Deutéronome 32, on voit qu'il y a comme des affinités textuelles et on peut de cette manière trouver des motifs à l'écriture d'un psaume qui essaie de... de raccrocher le croyant à l'histoire du salut. On a essayé de dire quelle catégorie correspondait à ce psaume. Eh bien, en fait, la catégorie, c'est la libération, c'est la délivrance. Et la catégorie, c'est donc celle de l'Exode. Et en fait, en utilisant des passages de Deutéronome 32, ce psaume met le croyant en relation avec ce qu'a vécu Moïse et le peuple hébreu. Et donc, ce qui a été vrai pour le peuple hébreu l'est pour toi aujourd'hui. La liturgie, c'est de faire revivre les hauts faits du passé, de les réactualiser et de les rendre disponibles pour le croyant aujourd'hui. Donc c'est une actualisation qui va permettre aux croyants de s'approprier la dynamique d'autrefois. Et souvent avec Moïse, on l'a, par exemple, après l'épisode du veau d'or, il y a Moïse et Dieu Moïse qui est en train de négocier avec Dieu pour éviter qu'il y ait une punition terrible sur le peuple qui vient de fabriquer cette idole. Et Moïse utilise notamment comme argument « comme tu l'as fait pour nos pères autrefois ». Autrement dit, il y a une réactualisation. Ce qui était bon pour eux, les a fortiori pour nous. Eh bien, cette rhétorique est utilisée dans la liturgie du Temple. Ce qui a été vrai pour vos anciens l'est donc pour vous aussi aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle la liturgie, parfois, a un effet un peu répétitif, un peu lourd, on a l'impression que c'est vieux, etc. C'est une manière d'offrir à nouveau ce qui a été vrai par le passé, avec un petit peu d'actualisation pour que ce soit compréhensible. Mais il ne faudrait pas imaginer que chaque génération invente tout à nouveau. On reçoit du passé des bienfaits qui ont encore leur efficacité aujourd'hui. Et donc le prêtre va décrire cette protection. Et il décrit cette protection en utilisant les motifs à sa disposition. Et donc le motif principal, quand on veut parler de libération et de délivrance, c'est l'Exode. Pour vous faire prendre conscience de la puissance de ce motif de l'Exode, la théologie de la libération dans les années 70-80 en Amérique du Sud s'est entièrement fondée sur le motif de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, pour sortir de la dictature, pour sortir de la misère, pour sortir de tout un tas d'aliénations, les théologiens de la libération, notamment Gutiérrez, ont revisité le thème de l'Exode pour dire que ce qui avait été vrai autrefois pour Israël l'était encore aujourd'hui. Et ils ont fait exactement ce qu'ont fait les Camisards dans les Cévennes en disant « Vous êtes le nouvel Israël ». André Chanson dit que le mont Égoual était le nouveau Sinaï. Complètement faux. Mont-Égoual, c'est Mont-Égoual. Mais c'est complètement vrai, c'est qu'effectivement, un lieu peut être réinvesti symboliquement. Donc c'est faux sur le plan géographique, c'est vrai sur le plan théologique. Il ne vous aura pas échappé que la Bible est un livre théologique. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Voilà, donc c'est la formule conclusive que vous évoquiez tout à l'heure, qui pourrait faire penser que nous faisons partie des élus, mais peut-être est-ce tout simplement une façon de dire que on a été préservé jusqu'au bout de cette méchanceté qui risquait de nous gagner. C'est-à-dire que être distingué des méchants, c'est une façon de dire qu'on n'est pas méchant. Non, mais je sais, c'est un peu le béaba, mais c'est le jeu des frontières, en fait. Quand on commence à distinguer, forcément, on se met d'un côté de la limite. Ce n'est pas forcément pour disqualifier l'autre, mais c'est plutôt pour donner de la consistance à celui que nous sommes. Donc ensuite, le verset 9, je vous avais dit, c'est la confession de foi. « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. » Donc là, on a bien changé de sujet. Cette fois, c'est le pèlerin qui parle. Et il lui dit à peu près ce qu'on lui avait dit de dire au verset 2. Hein ? En fait, il fait son travail. Il réinterprète, hein, il ne fait pas le perroquet en disant « à être prêt ». Donc ça, c'est aussi un encouragement, hein, quand certains font une profession de foi ou demandent un baptême, et qu'ils se sentent assez libres par rapport aux formules rituelles, c'est quand même assez sympathique. Pourvu que l'esprit soit là. Alors, « aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente ». Allez, et puis carrément le verset 11 aussi avec. « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains pour que ton pied ne heurte pas contre une pierre. » Bon. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce qu'il ne nous arrivera plus jamais aucun malheur? Ou est-ce que ceux à qui il arrive des malheurs sont ceux qui l'ont bien cherché? Ce sont des mécréants? Bon, ceci dit, il y a quand même un texte qui résiste un peu là. Donc ça vaut quand même le coup un peu de se demander comment est-ce qu'on l'interprète. Alors, il y a bien sûr ce que vous avez évoqué tout à l'heure, à savoir notre perception du réel. Et donc, il se peut que ces textes disent que la confiance nous ouvre les yeux sur ce qu'il y a à voir, hein, les fameux « que ceux qui ont des oreilles entendent et que ceux qui ont des yeux voient » finalement, hein. Donc, ouvrir les yeux, c'est ce que fait Jésus. C'est-à-dire que la foi, c'est effectivement porter un autre regard sur le monde. Et peut-être un regard qui nous permet d'éviter cela. Mais aucun fléau n'approchera de ta tente. On a l'impression que c'est le fléau lui-même qui est neutralisé. Et puis, les anges qui vont nous porter sur les mains. Et notre pied qui, du coup, ne heurtera plus contre une pierre, non pas parce que nous aurons vu la pierre, mais parce que nous serons portés par les anges. Comment on se dépatouille de ça? Y a-t-il des anges gardiens? En fait, c'est la question que pose le texte. Bon, mais... La réponse est oui, c'est ça? Bon, bah, c'est écrit, donc c'est oui. Je comprends ça. Non. Non, il y a de la résistance. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Oui, des légions d'anges.
Bon, mais bon. Que veut-il dire par là?
Les anges, ce sont des messagers, oui.
Il y a parfois des signes.
Alors, pour aller dans le. Pour poursuivre.
C'est l'annonciation, c'est déjà le premier message.
Oui. Mais j'imagine qu'en disant que ce sont des messagers, c'est une façon de se dire que nous pouvons être anges pour autrui et que par conséquent, nous pouvons être au bénéfice d'anges qui sont celles et ceux qui croisent notre route et qui nous permettent de lui donner une bonne orientation. Donc c'est vrai que le fait que ça soit traduit par « ange » alors que le texte, hein, je revérifie, oui c'est ça, c'est « malheur ». Donc c'est le messager, peut nous conduire là aussi sur la piste du surnaturel. D'autant qu'on a eu juste avant l'histoire de Dieu avec ses plumes et ses ailes. Donc vous voyez, il y a une sorte de contamination de l'imaginaire qui est possible. En fait, le texte parle de messagers, je dirais de façon assez modeste. Autrement dit, quand on voit ce que font les messagers, donc les anges, dans les textes bibliques, ils se trouvent à des moments carrefour qui nous permettent de prendre le bon embranchement, ou qui, en tous les cas, nous permettent de prendre l'embranchement en connaissance de cause. Donc ça rejoint votre idée de tout à l'heure sur la bonne perception du réel, sur ouvrir les yeux, sur voir ce qui arrive, sur anticiper. Si on voulait faire un petit jeu de mots sur prévoir, et prévoir, c'est en fait un peu l'équivalent de prédestiner. Hein, parce que prédestiner, c'est pro horizo. Pro horizo, c'est d'être porté vers un horizon. Donc il y a un horizon et voilà, on se rend vers l'horizon. Et donc là, prévoir, c'est le sens de la providence. C'est donc le fait que ce qui arrive peut avoir du sens, en fait. Voilà sur quelle interprétation j'aimerais vous embarquer. Je la construis à partir du dernier verset. Le verset 16 qui dit « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Donc c'est le verbe « yasha » qui veut dire « sauver », qui donne le sauveur, « moshiach », à ne pas confondre avec « moshiach » le Messie. S'il y a salut, c'est donc qu'il y a un réel danger. Il y a une vraie menace. Et le salut consiste à faire quelque chose de ce danger, de cette menace. Donc, cela signifie que l'intervention divine va nous permettre de surmonter ce qui arrive. Non pas de l'éviter, mais de le surmonter. Et quand il y a ce genre de situation, on peut rapidement penser à ce que disait le pasteur, je crois que c'était Wilfred Monod, je ne sais jamais si c'est Charles Wagner ou Wilfred Monod, mais c'est l'un des deux. Dieu ne protège pas l'homme de la foudre, il protège l'homme foudroyé. Ça veut dire que Dieu n'est pas celui qui évite les menaces, c'est celui qui nous permet de faire quelque chose de ce que nous avons vécu ou subi. C'est-à-dire que Dieu ne nous préserve pas du deuil, il ne nous préserve pas de la vallée de l'ombre de la mort, il nous permet de la traverser. C'est-à-dire que tout bon croyant que nous puissions être, eh bien, nous continuerons à être touchés par la maladie et tout un tas de malheurs. Mais on pourrait dire que Dieu est une sorte d'instance de relativisation. Prenons-le avec des choses très, très issues de la vie quotidienne. Fut un temps où quelqu'un qui avait subi un cancer était considéré en quelque sorte comme un pestiféré. Moi, je me souviens très bien d'un collègue qui avait présenté sa candidature dans un poste pastoral. Et les conseillers avaient appris qu'il avait eu un cancer. Et donc, il considérait qu'il n'était plus vraiment viable pour le ministère pastoral. Parce qu'il était, en quelque sorte, contagieux. Non pas contagieux parce que le cancer se transmettrait, mais il y avait un regard extrêmement défavorable. C'était définitivement un cancéreux, quoi. Voilà. Alors, les représentations ont changé, mais elles ont changé parce que des transformations ont eu lieu. Et je dirais qu'une démarche de foi, c'est justement le changement de regard sur les situations qui font que des métamorphoses peuvent intervenir. Et Dieu comme instance de relativisation, c'est une manière de dire que quelqu'un qui a été malade, quelqu'un qui a été peut-être amputé, quelqu'un qui a connu un échec, quelqu'un qui a raté quelque chose, n'est pas condamné à n'être que cela. On pourrait même aller plus loin. Je ne sais plus qui disait ça, mais ce n'est pas moi en tout cas. Nous ne sommes pas condamnés, nous ne sommes pas condamnés à n'être que ce que les autres disent de nous. Bon, ça, c'est vraiment pour aller au bout de la démarche existentielle. Mais si on reprend des choses quand même plus matérielles, parce qu'ici, il est question d'épreuves matérielles, eh bien, il est possible de les comprendre comme cette promesse d'une traversée possible. Ou, je prends un autre exemple biblique, Saül est sur le point de mener une bataille qui va être sa dernière bataille, et il comprend en fait que l'issue est fatale, voilà, il va perdre la guerre, il va perdre la bataille, il va perdre la vie en fait. C'est la fin dans Samuel. Alors il va essayer un peu de jouer avec le destin, il va aller voir une sorcière à Endor, il va faire monter Samuel du séjour des morts pour essayer d'avoir une sorte d'oracle qui arrange les choses. Et puis Samuel ne fait que dire ce qu'il a toujours dit, donc voilà, rien ne va changer, parce que Saül s'est enfermé dans son propre destin. Donc il lui reste quelques heures à vivre, et que fait la sorcière qui est bien plus une dynamique de vie que ce qu'on peut imaginer avec tout l'imaginaire que nous avons sur les sorcières. Donc Saül est sur le point de mourir, et ce qu'elle fait, c'est de lui donner à manger. Elle le nourrit, ce qui est complètement inutile et absurde, vu qu'il va mourir. C'est du gâchis. Bon. C'est du gâchis dans une perspective païenne, je dirais. Dans la perspective de foi, c'est donner à la personne la possibilité de vivre jusqu'au bout. Hein, la fameuse la palissade, un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. C'est pas une façon de dire il y avait encore une activité cardiaque. Non, c'est qu'il en a profité jusqu'au bout. C'est-à-dire que son humanité, il a pu la faire valoir jusqu'à ses derniers moments. Eh bien, c'est vrai pour là aussi. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Il y a une compréhension possible, c'est que on va avoir une durée plus longue en étant croyant qu'en étant mécréant. L'autre compréhension, c'est qu'on va avoir une durée plus intéressante en étant croyant qu'en étant mécréant. C'est-à-dire que jusqu'au bout, on sera alimenté. On aura donc tout ce qu'il nous faut pour avoir une vraie existence, et pas simplement une survie, jusque dans notre dernier souffle. Et le salut, c'est de sauver notre vie de ce qui ne serait que l'ombre de la vie, en fait. Hein, c'est-à-dire de pouvoir être au bénéfice d'une vie en plénitude. On sauve notre vie du rien du tout, quoi. Ou de ce qui n'est plus que le néant, ou du végétatif. Étant entendu que le végétatif peut être réinvesti de l'intérieur autrement que tel qu'on l'imagine quand on est à l'extérieur. Et il y a là une sorte de tonalité messianique. Vous voyez ? Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. C'est bien une résurrection dont il est question ici. C'est pas d'échapper à son destin. C'est pas d'échapper au malheur. C'est de pouvoir faire quelque chose de sa vie une fois qu'on a été blessé. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera. Ça me permet de revenir sur le terme invoquer, qui est le verbe qu'on avait avec Seth, dans la généalogie de Lamec, Cain, etc. Donc c'est le verbe « kara ». C'est le moment où on est tendu vers Dieu. Cain, effectivement, avait une relation à Dieu puisqu'il a offert des offrandes, mais dans l'offrande qu'il a faite, il n'y avait pas de sens religieux pour lui. Et Abel avait choisi les prémices de son troupeau. Caïn, lui, avait juste donné des fruits, mais pas les premiers fruits, c'était pas les primeurs. Donc, Caïn n'avait pas donné de sens spécifique à son geste. Il s'était contenté de s'acquitter de ce qu'il estimait être un devoir religieux. C'est comme si vous invitez quelqu'un à manger parce que vous voulez établir une relation avec, mais vous vous impliquez pas dans le repas, vous vous impliquez pas dans la relation. Voilà. Vous avez fait ce qu'il faut, vous avez fait le rituel, et puis il s'est rien passé, quoi. Vous venez. Voilà, on a une heure de culte à faire. Bon, bah, ok, il faut chanter, il faut faire ceci, cela, et puis on repart peut-être même encore moins vivant que ce qu'on est arrivé. Et donc, ici, le fait d'invoquer, c'est justement le fait d'espérer quelque chose. C'est une posture conquérante. C'est d'appeler pour qu'il se passe quelque chose. C'est un stimulus, c'est une exigence. Et à partir du moment où il y a cette espérance en prémisse, alors forcément il va se passer quelque chose. Parce que notre façon d'appréhender ou d'aborder une situation quand elle n'est pas neutre, influe sur la situation. Et quitte à ce qu'elle ne soit pas exactement conforme à notre espérance au bout du compte, en tous les cas, elle ne restera pas en l'état. Et ben voilà, c'est la fin du psaume 91.